À l'occasion des Journées du Patrimoine, Radio Grenouille a décidé de se tourner vers ses voisins méditerranéens égyptiens. En rencontrant Marwa Adel Gawad et Vincent Dumesnil, respectivement animatrices et volontaires au sein du service pédagogique du Centre d'études alexandrines. Celui-ci tente d'ouvrir et de mettre en valeur le patrimoine d'Alexandrie en s'adressant au plus large public possible. Alors tout d'abord, bonjour. Y a-t-il de véritables enjeux, selon vous, à rendre le patrimoine accessible en Égypte, et spécialement à Alexandrie? Autrement dit, quel est le rapport des Égyptiens à leur patrimoine à l'heure actuelle?
Le patrimoine, comment sentir le patrimoine, comment regarder le patrimoine, comment le conserver, comment être intéressé au patrimoine chez nous, ça n'existe pas, ça arrive pas. Il y a des enfants qui peuvent, jusqu'à l'âge de 20-25 ans, qui n'ont jamais rentré dans des musées. Il y a même des parents, des enfants qui ne sont pas intéressés à rentrer dans des musées. Donc, c'est ça notre rôle, que même qu'ils ne doivent pas... Même quand ils rentrent dans un musée ou dans un endroit historique, qu'ils respectent l'endroit. Donc, chez nous, vraiment, l'histoire s'est un peu perdue. Par exemple, nous, à Alexandrie, on a plein de maisons. On a un quartier ottoman. Et vraiment, c'est des maisons, italiennes, maisons françaises, des maisons qui datent des années et des années. Et il y avait c'est bizarre, quand tu rentres, tu trouves deux maisons antiques au milieu d'un bâtiment de 14 étages. Et ça n'a aucun rapport. Donc, où les propriétaires, ils le vendent, d'autres qui viennent détruire, après ça, ils remontent des bâtiments, des buildings. Ou sinon, même les gens qui habitent dedans, ils ne comprennent pas la valeur de leur maison.
On a pourtant l'impression que l'Égypte développe une véritable économie vis-à-vis de son patrimoine, notamment par le tourisme. Alexandrie n'est-elle pas aussi dans cette dynamique ?
Par rapport à Alexandrie, elle a un statut assez particulier. Elle a été créée par Alexandre le Grand. Donc c'est pas du tout l'image qu'on peut reconnaître de l'Égypte, c'est-à-dire que c'est pas une ville pharaonique. Bref, on retrouve en fait certains éléments qui pourraient être pharaoniques, mais l'histoire d'Alexandrie, c'est une histoire avant tout grecque. Et il y a des effets en fait qui sont visibles. Pourquoi il y a autant de présence grecque à Alexandrie? Pourquoi on retrouve énormément d'architectes italiens qui ont construit des mosquées à Alexandrie? Voilà, il y a toute cette culture en fait qui est encore présente, mais que les Égyptiens subtilisent pour subvenir à cette espèce d'égyptomania, de pharaomania. Et donc, tu peux trouver à Alexandrie des gens qui vont vendre des petites pyramides, des choses comme ça, alors qu'Alexandrie, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas du tout pharaonique. Et il y a malheureusement beaucoup de choses qui sont encore dans son sous-sol et qui sera malheureusement très dur d'aller visiter puisque la ville se construit et donc petit à petit en fait mange sur l'histoire.
Même quand on cherchait la maison de Kavafi, le poète alexandrin, et avec Vincent dans la rue, on essaye vraiment de la maison de Kavafi. Et à la fin, vraiment, c'était un mec qui est un peu vieux, qui est dans la rue. Il m'a dit: oui, tu veux dire le bâtiment jaune. Et vraiment, le bâtiment, il est jaune. Mais pour lui, ça n'existe pas. Mais juste le bâtiment jaune que le touriste, il vient pour chercher. Donc c'est le bâtiment jaune.
Il y a donc, selon vous, une méconnaissance des Égyptiens, ou tout du moins des Alexandrins, vis-à-vis de leur patrimoine, de leur histoire. Pourtant, en étant provocateur, j'ai envie de dire que cela ne les empêche pas de vivre et qu'il faut bien à un moment reconstruire par-dessus pour remplacer.
Le fait d'avoir... de pas connaître leur histoire, etc., ça les dérange pas de vivre. Je pense qu'en fait, la question, elle est aussi de comprendre en fait qu'il y a des gens qui ont vécu avant eux, et il y a des gens qui, du coup, vivront aussi après eux. Et je pense que la question du patrimoine aussi, elle est là-dessus. C'est-à-dire que il y a eu une histoire avant, donc aujourd'hui, il y a quand même... Il y a des regards de la basse Égypte sur la haute Égypte qui sont différents. Il y a pas mal de choses en fait qui agissent sur la société actuelle, qui sont liées aussi à des histoires et qui pourraient être comblées justement par ces 2000 ans d'histoire, les rapports qu'il y avait entre les gens, etc. c'est aussi une question sociétale et de comprendre aujourd'hui où est-ce qu'on se situe, comment on se situe, quels sont nos rapports à l'autre. Et voilà, et de pouvoir la comprendre, soit pour la modifier, soit pour au contraire l'embellir, etc.
Un peu dans ce souci de faire comprendre la société qui nous entoure à travers le patrimoine, vous avez mené cette année un projet avec des enfants sur le thème « Quelles traces laisserons-nous de nous dans 1000 ans ?» Donc après les avoir amenés à côtoyer certains musées de manière ludique et réfléchie, ce site devait réaliser une exposition de leur époque qui puisse être observée dans 1000 ans. Quel écho cette initiative a-t-elle eu chez eux ?
Au début, vraiment, c'était un peu difficile qu'ils comprennent les traces qu'on va laisser maintenant, dans 1000 ans. Ça veut dire que ce qu'on a, par exemple, en 2009, en 3000, je ne sais pas, c'est des monuments. Comme nous, on regarde les monuments. Et au début, vraiment, tout le temps, ils choisissent des choses antiques. Ils pensent à des choses antiques. Et c'était un peu, petit à petit, avec les deux groupes, c'est qu'ils comprennent, par exemple, qu'un stylo, dans 1000 ans, c'est un monument. Donc peut-être l'archéologue, il ne va pas savoir comment il s'appelle. Peut-être il va donner un autre nom. Ce n'est pas un stylo. Il ne va pas savoir le fonctionnement. Donc il peut imaginer quelque chose comme les archéologues ils font déjà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont rencontré une archéologue qui s'appelle Patricia. Et Patricia, vraiment, elle a dit que nous, les archéologues, on fouille dans les poubelles. Ça veut dire que ce qu'on trouve dans les maisons, on ne sait pas qu'est-ce qu'on trouve. Du coup, même eux, quand ils ont pensé de mettre des choses dans leur exposition, ils ont pensé aux trucs de Chipsy, le Coca-Cola, des choses comme ça. Donc, ils veulent mettre les textes, comment imaginer les noms des objets, ils ne vont pas mettre les noms réels. Ça, c'est vraiment... Ça, j'attends vraiment la réaction des gens quand ils rentrent dans un musée et voient des papiers de chips comme monument. Ça, c'est étonnant un peu.
Est-ce que vous avez, à travers ces ateliers et à travers leur regard à eux, été vous-même remis en question dans votre vision du patrimoine ? Est-ce que vous avez des anecdotes, des souvenirs, des réactions étonnantes, par exemple ?
Pour la petite anecdote, en fait, moi personnel, qui m'a assez perturbé, c'est que donc on a un groupe qui est donc issu d'un village de pêcheurs, etc. Et dans les objets qu'ils ont choisi en fait de mettre en vitrine, ce sont des cassettes en fait, des cassettes magnétiques, des bandes magnétiques. Puisqu'aujourd'hui, les enfants du XXe siècle travaillent avec des CD. Nous, on a connu, en fait, moi, de mon époque, on a connu la bande magnétique, on a grandi avec. Et donc, du coup, c'est un patrimoine, en fait, qui a fait tilt chez moi qui m'a beaucoup parlé par rapport à ma propre histoire. Je ne sais pas si elle parlera aux enfants de demain ou aux enfants d'aujourd'hui, mais en tout cas, chez moi, elle a eu un sens. Et voilà, c'est toute cette histoire humaine, en fait, qui est intéressante aussi derrière les objets qu'on a voulu montrer, qu'un objet dans un musée, ce n'est pas seulement en fait, une figure de proue d'une certaine époque, mais c'est aussi l'image d'une population, d'une vie, des vies qu'il y avait autour.
Est-ce que vous pensez que cette émission qu'on enregistre en ce moment sera dans un musée, peut-être dans 1000 ans ?
Peut-être. Ça, dans 1000 ans.
En tout cas, si elle est diffusée sur les ondes, théoriquement, elle va parcourir en fait, l'univers, donc on pourra toujours la retrouver dans un endroit quelconque de l'univers. Elle sera toujours en train de se balader dans 1000 ans.
Si vous avez envie de prolonger cette discussion avec Marwa Adel Gawad et Vincent Duménil, vous pouvez venir les rencontrer au siège de l'association Zinc à la Friche Belle de Mai. Ou alors vous pouvez aussi vous rendre sur le site du CALEX www.calex.com.